Bonjour, comme Luigi l'a dit tout à l'heure, je remplace un peu à pied levé le pasteur Yannick, donc notre pasteur de l'enseignement et la vision. Donc ce matin, on va faire une pause dans notre série actuelle sur Apocalypse et on va en tout cas être dans la parole de Dieu, même si ce n'est pas dans Apocalypse, on va être dans la parole de Dieu et certainement que Dieu a quelque chose à nous enseigner. Chaque fois que nous avons l'opportunité d'ouvrir sa parole, le Seigneur a quelque chose certainement à nous enseigner. Et ce matin, il me fait plaisir de pouvoir partager ce texte qu'on va nous lire dans les prochaines minutes avec vous. Et ce texte va nous amener dans une histoire que vous connaissez certainement très bien. Et comme chrétiens, nous vivons généralement dans une société marquée par des hauts et des bas. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas soumis exactement aux mêmes situations que vivent l'ensemble des êtres humains sur la terre. Donc, nous sommes soumis exactement aux mêmes situations. Nous traversons des moments de joie, des moments d'allégresse, mais aussi des moments, des fois, un peu plus difficiles. Et bien souvent, comme chrétien, une question revient constamment à notre esprit. Quel est l'ingrédient ou quelle est la méthode? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de particulier pour que notre vie de chrétien soit une vie vraiment remplie de bonheur, une vie authentique qui soit à la gloire de Dieu? Et les Écritures, souvent, vont se servir des histoires, des personnages de la Bible ou d'autres situations, surtout dans les évangiles, pour nous amener à nous inspirer parfois de ce que ces gens-là ont vécu et nous permettre, nous aussi, d'apprendre comment dans une telle situation, tel personnage de la parole de Dieu s'est comporté et aussi s'inspirer de ça pour nous avancer et grandir, pour bâtir la personne de Christ, la personne de Christ en nous et avoir la vision qui correspond à un enfant qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et ma prière pour nous ce matin ensemble, c'est qu'à la fin de cet exposé, que nous puissions puiser dans ce que le Seigneur va nous adresser ce matin, que nous puissions puiser les enseignements nécessaires pour se forger une conviction ferme de ce que doit être la vie chrétienne authentique, de ce que la vie d'un chrétien authentique, à quoi cela doit ressembler. Donc, nous allons prier et laisser ensuite place à notre frère pour la lecture du texte qui va nous servir de fil conducteur pour l'exposé de ce matin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons de ce que un jour dans ta grâce, infinie, tu as accepté de quitter ton royaume céleste, de venir prendre la place qui était la nôtre sur ce bois du calvaire. Tu es venu mourir et t'offrir en sacrifice afin que aujourd'hui nous puissions, Seigneur, t'appartenir. Seigneur, nous sommes dans cette exaltation de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as payé le plus grand prix jamais payé pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Seigneur, tu ne nous as pas appelés et ensuite nous rappelés à toi immédiatement, mais tu nous as laissés pendant un certain temps sur la terre et tu veux que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent en nous voyant vivre, Seigneur, se demander qu'est-ce que nous avons de particulier. Puisses-tu, Seigneur, au travers ta parole aujourd'hui, nous enseigner, nous amener à comprendre comment doit vivre un chrétien authentique, comment doit être la vie d'un chrétien authentique. Puisses-tu venir nous parler au travers, Seigneur, de cette exhortation et que nous soyons, Seigneur béni, oui, éternel, non pas à moi, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et de ta fidélité. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Écoutons la lecture.
La lecture de ce matin est tirée d'Apocalypse, au chapitre 19. Je vais lire les versets 1 à 16. Non, je n'ai pas eu le nouveau texte.
C'est quoi le nouveau texte? Bring in the text. Luc. Ah, tu vois. Alors, on dit Luc. 8.
Donc, la lecture de ce matin est tirée de Luc, chapitre 8, au verset 40, jusqu'à la fin, donc 56. Et je vais vous lire ça dans la version Genève. Luc 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé.
Désolé pour la petite confusion, c'est vraiment un changement des dernières minutes hier soir. Donc, nous venons d'écouter un texte dans lequel il y a deux personnages. Et ces deux personnages vont nous servir de fil conducteur ce matin. Donc, on voit la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et le chef de la synagogue du nom de Jaïrus. Et ces deux personnes étaient dans leur histoire. L'histoire qu'on vient de nous raconter, cette femme et cet homme étaient dans leur histoire. Et ce matin, certainement, en étant assis ici, vous êtes chacun de vous dans votre histoire. Chacun ici est dans son histoire de vie. Je ne connais pas votre histoire. Probablement que je ne vais pas forcément la connaître. Mais Dieu connaît votre histoire. Jésus-Christ connaît votre histoire. Et ce matin, si vous voulez profiter de l'enseignement de ce matin et voir comment cette histoire de la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et du chef de la synagogue, Jaïrus, peut avoir une répercussion sur votre propre histoire. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais que nous puissions faire quelque chose d'assez important, c'est que nous puissions apprendre ce matin à faire confiance à Jésus-Christ. Peut-être que vous êtes ici et que vous êtes simplement à la recherche de la vérité, vous demandez, vous n'êtes pas encore chrétien, vous vous demandez c'est quoi cette affaire et comment ça se passe. Peut-être que c'est aujourd'hui l'opportunité que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez commencer à lui faire confiance. Peut-être vous êtes ici et vous êtes chrétien de longue date. Vous connaissez le Seigneur. Vous marchez avec le Seigneur depuis plusieurs années. C'est peut-être aussi pour vous une opportunité ce matin de renouveler cette confiance que vous aviez placée en la personne de Jésus-Christ ce matin. Alors voilà comment, bien-aimés, je vais résumer l'exposé de ce matin. Faire confiance à Jésus-Christ au milieu de mon histoire est la garantie d'une vie chrétienne authentique. Apprendre comme chrétien à faire confiance à Jésus-Christ au milieu de mon histoire, c'est la garantie d'une vie chrétienne authentique. Le texte qu'on nous a lu ce matin, si vous êtes passé par les classes d'école de dimanche, vous connaissez cette histoire et vous l'avez entendue de mille et une manières. Donc l'histoire de la femme qui était atteinte d'une perte de sang et de la petite fille de Jaïrus qui était mourante et que Jésus a ramenée à la vie. Alors des fois quand on est tellement familier avec une histoire qu'on a déjà entendue, maintes et maintes fois on se demande qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau encore si on était amené à parler de cette histoire. Alors ce matin, je vais vous demander un exercice de mémoire, un exercice vraiment dans votre imagination. J'aimerais que vous puissiez oublier la fin de l'histoire que Stéphane vient de nous lire. Sortez cette histoire de votre esprit. Faites comme si vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. Oubliez la fin de cette histoire. On va ensemble se plonger dans l'histoire. On va se plonger dans l'histoire, on va voir l'histoire, peut-être, c'est ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir cette histoire sous un autre angle, sous une autre vision. Effaçons la fin et soyons nous-mêmes dans l'histoire. Ce matin, je vous invite à être la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Soyez cette femme-là. Ok, non, ça ne vous tente pas, je comprends. Ok, soyez Jaïrus, soyez le chef de la synagogue. Mettez-vous exactement dans la peau du chef de la synagogue. Ok, donc, non plus, ça, c'est pas très bon. Ok, alors, soyez les témoins. Soyez parmi les témoins. Un disciple, quelqu'un dans la foule. Soyez dans l'histoire. Alors, on pourra, si vous voulez, fermer les yeux quelques secondes pour vraiment nous transporter vers l'entrante de notre ère. Nous sommes vers l'entrante de notre ère, quelque part dans ce temps-là, dans votre imagination. Mettez-vous donc dans la peau de n'importe quel personnage dans cette histoire qu'on vient de nous lire et essayons de revivre cette histoire en quatre actes, en quatre scènes. On va essayer de revivre cette histoire exactement avec ceux qui étaient là présents en ce jour-là, en quatre scènes. Mais pour commencer, l'auteur fait quelque chose d'extraordinaire et c'est ce qu'on va commencer à faire. Avant de tomber dans les quatre actes que représente cette histoire, on va planter le décor. L'auteur de ce récit, Luc, plante le décor. Il décrit un peu tout ce qui environne cette histoire. Il ne tombe pas directement dans le récit de l'histoire. Il nous décrit, il met un décor. Et voyons le décor que l'auteur ici plante. Donc, on voit déjà, on remonte un peu plus loin que le texte qui nous a été lu. Donc, dans le verset 37, déjà, on voit que tous les habitants du pays des garéséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Maintenant, verset 40, à son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. La Bible nous dit qu'il y avait deux villages et les deux villages étaient séparés par un lac. Le lac de Galilée. Et d'un côté du rivage, Jésus était allé de l'autre côté du rivage. Et là, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a guéri un démoniaque. Un démoniaque qui était sous l'emprise des forces démoniaques venait d'être libéré par Jésus-Christ. Et quand les habitants ont vu ce miracle, au lieu de désirer que Jésus reste dans leur village, peut-être pour en faire d'autres miracles, ils étaient saisis de froid, ils étaient saisis de peur. D'un côté, ce village ne voulait plus entendre parler de Jésus. Ah, ça c'est trop ça. Ah, quelqu'un qui vient s'immiscer dans la vie des gens dans notre village, non, ça dépassait un peu ce qu'ils pouvaient supporter. Et le verset 37 nous dit clairement que les habitants de cette ville ont supplié littéralement Jésus de s'éloigner d'eux. Et Jésus ne veut pas s'imposer. Si nous ne voulons pas de Jésus, Jésus ne va pas s'imposer. Alors la Bible nous dit que Jésus est monté dans la barque et s'en retournait. Ça, c'est ce qui se passe d'un côté de du lac. De l'autre côté du lac, il y avait des gens qui attendaient. Le verset 40 nous dit, à son retour, quand il a traversé le lac, à son retour, Jésus fut accueilli par la foule car tous l'attendaient. Deux villages, d'un côté et de l'autre, mais ce n'est pas la même attitude. De l'autre côté du lac, les gens attendaient. Les foules ont commencé par se masser au bois. Probablement que Jésus, en étant embarqué dans sa barque, il y a des pêcheurs aussi qu'il avait devancé et qui avaient apporté la bonne nouvelle avant que Jésus n'arrive. Ils se sont dit, OK, quand on a quitté l'autre rive, Jésus s'en venait. Alors, la nouvelle s'est rapidement répandue dans la population et la population a commencé par se rassembler autour du lac parce que Jésus s'en venait. On voit donc cette joie débordante de cette population de l'autre côté du lac et Jésus arrive. Bien-aimé, la question qu'on doit se poser comme chrétien, de quel côté de la rive sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes de ce côté de la rive où nous ne voulons pas entendre parler de Jésus? Où vraiment la personne ne désirons même pas que Jésus se mêle de nos affaires? Ça, c'est un peu trop. Où nous sommes de ce côté de la rive où nous désirons ardemment que Jésus vienne parce que nous attendons cette personne extraordinaire qui pourra peut-être et certainement bouleverser nos vies. De quel côté de la rive sommes-nous dans cette histoire, si nous replongeons dans cette histoire? Et le contraste continue. Ici, l'évangéliste continue à partir du verset 42, la première partie du verset 42, le verset 43, on dit, parce qu'il y avait une fille, donc Jairus vient donc rencontrer Jésus, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Verset 43, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Et le contraste que Luc a mis au départ, ces deux rives, l'un qui désirait voir Jésus partir et l'autre qui désirait voir Jésus arriver, on voit que ce contraste-là, dans le décor, Luc continue à placer ce décor-là et à mettre en relief ce contraste-là. On voit une fille de 12 ans. C'était la fille de Jairus. C'est la fille de Jairus. Elle avait 12 ans. Et ce n'est pas par hasard que Luc met ça en contradiction, en opposition avec une autre chose qu'on voit. Il y avait une femme qui était souffrante depuis 12 ans. La fille unique qui faisait la joie de ses parents. Jairus et sa famille se réjouissaient d'avoir cette fille-là. Ce n'était pas une fille parmi tant d'autres, c'était leur fille unique. Et il est d'autant plus important que c'est exactement le même mot que Luc utilise pour désigner la fille unique de Jairus. C'est le même mot qui est utilisé pour désigner Jésus comme fils unique de Dieu. Donc, c'est pour montrer combien était précieuse cette fille unique de Jairus. Il faisait toute son affection. Il faisait, pendant 12 ans, Jairus a vu grandir sa fille, a vu s'épanouir sa fille, a vu sa fille prendre de la maturité. Et vous savez, en ce moment, en Israël, 12 ans, c'était pratiquement l'âge où on devenait adulte. C'était l'âge où on rentrait dans le cercle des adultes. Donc, à 12 ans, au moment où Jairus pouvait dire « mission accomplie, j'ai pu voir ma fille grandir, s'épanouir et devenir une personne adulte », voilà qu'une mauvaise nouvelle arrive dans la vie de Jairus et de sa famille, c'est que la fille était sur le point de mourir. Et en même temps, on voit d'un autre côté une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Oh, dans son cas ici, ce n'était pas une question de joie pendant 12 ans. C'était 12 ans de souffrance, en contradiction avec les 12 ans de bonheur que la fille de Jairus a eu. C'était 12 ans de souffrance pour cette femme-là. Cette femme souffrait depuis 12 ans. La Bible va plus loin en disant qu'elle a dépensé tout son argent, tout son bien, elle a dépensé auprès dans la main des médecins et aucun n'a pu trouver la solution à son problème. 12 ans où elle était à la recherche d'une solution à ses problèmes de tous les jours. Et ce n'était pas des problèmes faciles. La vie, souvent, la vie de plusieurs personnes même au sein de l'Église, au sein de nos familles, nos vies, souvent, sont des vies différentes. Comme on voit la vie de cette fille et la vie de cette femme, sont des vies complètement différentes. A priori, il n'y a rien qui relie ces deux histoires-là. A priori, il n'y a aucun lien. Mais souvent aussi, Dieu permet que nos vies puissent se compléter les unes avec les autres. Ou parfois, que nos vies s'entremêlent carrément. Et on va voir que dans le récit qui nous a été fait ici, la vie de cette fille et la vie de cette femme vont littéralement s'entremêler. Dieu permet tout cela pour notre bien. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions, tout en suivant les quatre scènes, donc les quatre grands actes du récit dans lequel j'aimerais que nous puissions nous plonger, que nous puissions avoir tout cela à l'esprit. Donc voilà un peu la situation, hein, le décor que l'évangéliste Luc met avant de commencer à raconter son histoire. Maintenant, plongeons-nous dans l'histoire. Plongeons-nous dans l'histoire. Acte 1, scène 1. J'ai intitulé cette scène « L'audace ». Regardons les versets 43 à 44. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière, toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Bien-aimé, l'audace de cette femme est inimaginable. La Bible dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang. Mais pour comprendre quelle était la vraie situation de la femme, vous devez vous replonger dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique au chapitre 15. Là, on décrit quelle doit être la condition d'une femme qui est dans son cycle menstruel. Combien de jours ça dure? Quelques jours, n'est-ce pas? Mais pendant le temps que ça dure, une femme qui est dans un cycle menstruel, en ce moment où nous sommes en train de vivre l'histoire, en l'an 30 de notre ère, n'avait pas le droit d'être dans le public. Elle devait même être mise hors du public. Elle devait être mise à part parce qu'elle était considérée, d'après les lois de Moïse, comme étant une femme impure pendant cette période. Cette femme-là n'avait pas une perte de sang passagère. Ce n'était pas une perte de sang normale dans son cycle naturel, mais c'était une maladie. Elle souffrait d'une perte permanente de sang et cela dure depuis 12 ans. Bien-aimée, cette femme ose affronter la foule. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'audace. Oser affronter la foule parce que, en réalité, on peut raisonnablement penser que cette femme était exclue de la société depuis les 12 dernières années. Elle n'avait pas le droit de se pointer dans un lieu public. Sa condition ne lui permettait pas d'aller dans un lieu public. Et moins encore de s'approcher d'un saint homme en la personne de Jésus-Christ. Elle n'avait pas ce droit-là. Elle sort donc probablement de sa cachette ce jour-là. Si vous êtes dans la peau de cette femme, probablement qu'elle sort de sa cachette. Elle sort de sa cachette et elle se dit, il faut que je voie Jésus. Peut-être que les fameux pécheurs qui étaient arrivés de l'autre rive où on ne voulait pas entendre parler de Jésus ont propagé la nouvelle et c'est tombé jusque dans la cachette de la femme. Elle s'est dit, il paraît qu'un grand prophète, le plus grand prophète que Israël ait jamais connu, arrive sur ce territoire. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais parce que si je ne le rencontre pas maintenant, je ne peux plus le rencontrer. Alors elle sort, elle décide d'affronter sa peur et de sortir de sa cachette. Elle avait un objectif, voir Jésus. Voir Jésus. Mais elle n'avait aucun accès normal. Elle ne pouvait pas envoyer un SMS à Jésus. Jésus, je suis dans ma cachette. Est-ce que tu peux faire un tour par ici parce que personne ne veut me voir en public? Elle ne pouvait pas envoyer un SMS. Elle ne pouvait pas téléphoner à Jésus-Christ. OK, on va dire, OK, il suffit qu'elle marche et aille à la rencontre de Jésus. Naturellement, Jairus a fait la même chose. Jairus a marché et allé à la rencontre de Jésus. Il dit, peux-tu venir chez moi, ma fille de 12 ans est mourante. Alors, on pourrait penser que cette femme aurait pu faire la même chose, mais elle ne pouvait pas, parce qu'elle était une paria dans la société. Elle n'était pas admise, elle ne pouvait pas se présenter en public. Non, elle ne pouvait même pas aller. On pouvait même imaginer que quand Jaïrus est venu, probablement que Jaïrus ont dit que c'était quoi son titre? Chef de la synagogue. Ça, c'est un gros titre en Israël. Probablement qu'il avait des gardes du temple avec lui. Probablement que les gens ont dû faire de l'espace devant lui pour pouvoir accéder à Jésus. Probablement que même certaines personnes ont dû être écartées un peu plus violemment pour que le chef de la synagogue puisse présenter sa doléance au Seigneur. Cette femme n'avait aucun de ces moyens. Alors, restons toujours dans l'histoire de cette femme. Cette femme probablement s'est dit, je ne peux pas me présenter. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est pourquoi la Bible ne nous dit pas que la femme alla embrasser Jésus. Moi, si je vais rencontrer Jésus, ça va être comme la chose la plus normale à faire. Je vais, je l'embrasse et comme ça, je reçois toute la bénédiction. C'est pas ça. Elle dit, si je pouvais toucher le frange de son vêtement. Pourquoi elle dit pas si je pouvais toucher le col de son vêtement? Pourquoi le frange? La partie qui tombe vers le bas. Je pense raisonnablement que probablement elle s'est dit, le seul moyen d'arriver jusqu'à Jésus sans me faire attraper, parce que c'est vraiment se faire attraper, se faire mettre dehors. Le seul moyen, c'est de passer par les pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait la foule. Donc, la femme va se servir de la foule comme un masque pour pouvoir se faufiler jusqu'à Jésus. Alors, probablement, elle s'est mise littéralement à quatre pattes dans sa condition et essayer de se frayer un chemin entre les jambes de la foule pour ne arriver, ne serait-ce qu'à agripper le frange du vêtement de Jésus-Christ. Voilà l'audace de la foi. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que cette femme espérait quelque chose? Est-ce que cette femme espérait quelque chose? Elle avait cette ferme assurance de ce qu'elle espérait voir Jésus-Christ poser sa main de guérison sur lui, sur elle. Mais est-ce que la femme est restée dans son salon, sous ses couvertures, tout grilotant, en disant « je suis malade ». Non, 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 elle a fait plus que ça. Elle a fait la démonstration de ce qu'elle espérait. Cette démonstration est passée par quoi? Affronter la foule, affronter les préjugés. Peut-être que quelqu'un dans la foule avait déjà commencé à crier « impur, impur !» Mais elle n'a pas écouté. Elle est allée jusqu'à toucher le frange du vêtement de Jésus-Christ. Voici l'audace de la foi. Acte 1. Acte 2. Versets 47 à 48. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché, comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais malheureusement, dans cette récit, la joie de la femme fut de très courte durée. Effectivement, selon sa foi, dès qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Elle a senti dans son corps toutes ces douleurs, toutes ces crampes, toute cette souffrance de 12 ans. Elle venait de voir son corps être libéré instantanément parce qu'elle a touché le frange du vêtement de Jésus. Mais cette joie fut de courte durée parce que Jésus arrête tout le monde. Quelque chose vient de se passer. Quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? D'abord, Pierre. Le tout bouillant Pierre reprend Jésus. Mais voyons donc, maître, quelqu'un t'a touché. C'est normal. Tout le monde te touche ici. Tout le monde veut te toucher. Donc, c'est normal que quelqu'un t'a touché. Jésus dit non, je sais de quoi je parle. Celui qui m'a touché ne m'a pas touché comme les autres me touchent. Parce que celui qui m'a touché avec une main de foi, une ferme assurance et une démonstration. Alors la femme toute tremblante nous dit la parole de Dieu. vint se jeter aux pieds de Jésus-Christ. Elle s'attendait à ce que Jésus-Christ lui retire cette guérison, toute tremblante, parce qu'elle a dû enfreindre plein de lois pour pouvoir toucher le frange du vêtement de Jésus. Elle se disait qu'elle venait de perdre cette joie qu'elle venait de ressentir grâce à la libération qui venait de se produire dans son corps. Elle s'attendait à ce que peut-être encore qu'il y avait encore le chef de la synagogue aux côtés de Jésus. Ça, la réprimande allait être sévère. Le chef de la synagogue était présent. Elle s'attendait à une réprimande. Elle était morte de peur. Elle était morte de culpabilité. Elle devait publiquement venir confesser sa faute devant tout le monde. Mais, bien-aimée, la parole que Jésus a prononcée tout de suite a rassuré la femme. « Ma fille, c'est la seule et unique fois dans les évangiles que Jésus-Christ utilise cette expression. Nulle part dans la parole de Dieu, Jésus n'a appelé une personne « ma fille », sauf cette femme-là. Ma fille, et ce mot, cette simple expression, la seule fois que Jésus-Christ l'utilise, il l'utilise sur cette femme. Et cela vient aussi en contradiction avec ce que nous avons vu dans tout le texte. Luc essaie de nous montrer cette opposition entre les deux histoires, mais en même temps, ces deux histoires qui s'entremêlent. Ma fille, cette femme n'avait plus de père peut-être depuis longtemps. Peut-être que cette femme n'avait plus de père terrestre depuis longtemps. Oh, dans tous les cas, même si elle avait un mari, même s'il y avait les gens de sa famille, elle était considérée comme une paria, comme une moins que rien à cause de sa santé, à cause de sa situation physique. Elle était considérée comme moins que rien. Peut-être vous sentez-vous dans cette situation aujourd'hui, que aux yeux de plusieurs personnes, vous êtes moins que rien, que personne n'oserait même vous appeler par votre nom, tellement vous lui faites honte. Mais Jésus appelle cette femme. Pas femme, pas une fille, mais ma fille, en opposition à la fille bien-aimée de Jaïrus. Jaïrus pouvait dire, en ce qui concerne sa fille de 12 ans, ma fille. Et cette femme venait d'avoir le privilège de pouvoir compter sur un Père céleste en la personne de Jésus-Christ. Elle venait de trouver Jésus-Christ comme le Père de sa vie. Maintenant, allons un peu plus loin. Pourquoi Jésus, honnêtement, réfléchissons maintenant, on quitte l'an 30, revenons en 2018. Imaginez, en 2018, on va dire honnêtement, Jésus, est-ce que c'était pour faire un spectacle? Parce que c'était quoi l'intérêt? La personne t'a touché, la personne est guérie. Donc l'histoire finit là, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu tiens tant à ce qu'elle vienne se présenter? Est-ce qu'il y avait un intérêt? Pour trouver la bonne réponse à cela, retournons dans Lévitique, dans cette histoire que je viens de vous raconter. Un, le fait que Jésus exigeait que cette femme se présente publiquement, c'était pour attester la guérison en présence de témoins. Parce qu'une femme qui souffrait d'une perte de sang, le seul moyen d'être réintégrée dans la société était qu'elle aille devant le prêtre et qu'elle démontre publiquement qu'elle n'était plus dans sa condition. Imaginez cette femme, c'est depuis 12 ans qu'elle souffre. Vous pensez que personne ne la connaissait en Galilée? Les gens la connaissaient. Imaginez qu'elle est guérie, elle part incognito, personne n'a vu la scène. Le lendemain, la voilà toute heureuse, bien habillée, qui débarque dans la synagogue. Quand les gens la voient arriver, c'est quoi leur réaction normale? Elle fait quoi ici? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Pourquoi vient-elle dans l'assemblée? Parce qu'elle n'a pas le droit. Elle souffre d'une perte de sang depuis 12 ans. Aucun médecin n'a pu la guérir. Non, les amis, laissez tomber. Moi, j'ai été guéri hier par Jésus-Christ. Où? Quand? À quelle occasion? Il ne pouvait pas comprendre. Alors, par cet acte, Jésus établissait hors de tout doute. Et mieux encore, en présence du chef de la synagogue. Je ne sais pas si Jaïrus était le chef de la synagogue que fréquentait la femme, mais anyway, c'est un chef de synagogue. C'est un chef de synagogue. S'il y avait quelqu'un en qui un autre chef de synagogue pouvait croire et attester que cette femme a été guérie, c'était bien Jaïrus. Alors Jésus-Christ l'amène pour attester devant le chef de la synagogue s'il y avait lieu et ainsi accomplir la loi de Moïse. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. En Jésus-Christ, cette femme était guérie. Elle était devenue de nouveau fréquentable. Grâce à Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes désormais fréquentables. Je peux vous fréquenter. Je peux vous fréquenter. Avant, vous étiez des personnes non grata. C'est-à-dire que vous n'aviez aucun droit de cité parmi le peuple de Dieu. Mais désormais, grâce à Jésus-Christ, maintenant vous êtes fréquentables. On peut faire un bout de chemin ensemble parce que vous avez rencontré le vrai patron qui peut enlever toutes sortes de problèmes dans notre vie, qui peut nous permettre d'avoir une vie à son image. Voilà ce que Jésus a voulu faire au travers de ça. Mais bien-aimés, si c'était l'horreur pour la femme de se voir découvrir, c'était aussi l'horreur pour Jaïrus. C'est l'horreur doublée de colère, de questionnement et d'accusation. Maintenant, pour ceux qui avaient choisi Jaïrus tout à l'heure, dans l'histoire, qui voulaient être dans la peau de Jaïrus, imaginez que vous avez la fille, votre fille unique, unique de chez unique. OK? Donc ça, c'est votre fille. Et elle est mourante. La Bible nous dit sur le point de mourir. Donc, on ne parle pas d'une question d'heure. On parle d'une question de minute. Vous venez voir Jésus parce que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose. Déjà, vous êtes en colère. En colère parce que vous dites, c'est combien de gardes de temple on m'a donné? Pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas écarter la foule pour que Jésus-Christ aille un peu plus rapidement à la maison pour sauver ma fille? Mieux encore, c'est que Jésus-Christ, sur le chemin, décide de s'arrêter pour faire un brin de jasette avec une femme. Donc vous vous dites, honnêtement, je crois que Jésus ne comprend pas la gravité de la situation. C'est-à-dire que cette femme-là, imaginons même qu'elle était vraiment malade. Ça, je suis Jaïrus là. Imaginons qu'elle était vraiment malade. Elle a déjà souffert 12 ans. Un jour de plus, ça change quoi? Ça fait 12 ans que ça dure. Un jour de plus, un jour de moins. Pourquoi elle ne pouvait pas attendre le lendemain pour se faire guérir? Ça presse. Moi, ma fille, ça presse. Ce n'est pas une question d'heure, c'est une question de minutes. Parfois, nous sommes exactement dans cette situation. Parfois, honnêtement, nous entendons certains de nos frères et sœurs demander des choses à Dieu. On se demande, Dieu doit avoir des choses plus intéressantes, plus urgent à faire que de s'occuper de ces choses. Moi, j'ai des problèmes plus importants que Dieu doit résoudre. Je ne sais pas pourquoi vraiment les gens sèment beaucoup de bruit autour de la présence de Dieu de cette manière. Beaucoup de gens pourraient avoir ce questionnement dans leur cœur. Combien de fois avons-nous désiré, si possible, secouer Jésus de son sommeil? Parce que nous, on a l'impression que Jésus n'est pas conscient de l'urgence de la situation. Ah ouais! Réveille-toi! Les disciples ont tenté de le faire dans la barque. Vous vous rappelez? Et ils dormaient. Ah, c'est bon de dormir. Il y a la tempête, Jésus! Mais ça brasse. C'est exactement ce que Jaïrus avait dans son cœur. Il y a une tempête intérieure qui déferlait dans le cœur de Jaïrus. Oh, il voulait secouer Jésus pour que Jésus fasse quelque chose pour sa fille. Jésus comprend bien l'urgence de la situation. Et comme si ça ne suffisait pas. Verset 49. Comme il parlait encore, brin de jasette de Jésus avec la femme, survient de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. Il n'a pas dit, assois-toi d'abord, on va te donner un verre d'eau. Non. Il est arrivé et dit, patron, ta fille est morte. n'importune pas le maître. Voilà. Voilà ce que je redoutais. Voilà ce que Jaïrus redoutait. Il pouvait littéralement sauter sur Jésus-Christ. Tu vois, depuis quelques minutes, j'ai essayé par toutes les manières d'attirer, hein, en faisant des gros bras, des gros signes, d'attirer ton attention. Mais voilà ce que je redoutais. Voilà. Mais Jésus-Christ lui dit, « Crois-tu en moi ? Est-ce que tu crois en moi ?» Et cette phrase, ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous de Marthe et de Marie, les deux sœurs de Lazare. Quand elles sont venues à la rencontre de Jésus-Christ, c'était exactement la même attitude. Oh, si tu étais là, ne serait-ce que quelques jours à l'avance, notre frère Lazare ne serait jamais mort. Si tu étais là quelques jours, comment tu as fait pour ne pas te presser? Pourtant, c'est ton ami. Ils auraient pu avoir cette attitude. Et c'est ce que Jaïrus ressent ici. Depuis longtemps, ça fait combien d'heures, combien de minutes que je suis venu faire appel à toi. Et voilà, maintenant, c'est trop tard. Mais Jésus lui dit, crois seulement. Acte 3. 51 à 53. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, ils ne permirent à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Jaïrus, avec l'énergie du désespoir. Voyez, quand vous savez que dans tous les cas, il n'y a plus rien à faire. Comme Marie et Marthe, quand ils s'en allaient là où on a enterré Jésus, Lazare. Donc, quand ils s'en allaient avec l'énergie du désespoir. Ils sont déjà, il ne faut pas toucher à la pierre, il est déjà en décomposition. Mais, parce que Jésus a dit, on y va, ils y vont quand même avec l'énergie du désespoir. Jaïrus s'en va à la maison avec l'énergie du désespoir, espérant qu'il y aurait peut-être quelque chose encore à faire. Mais malheureusement, les pleurs qui sortaient de la maison disaient exactement le contraire. En Israël, on ne pleure pas pour pleurer. On pleure quand il faut vraiment pleurer. Et il y a des spécialistes, ça s'appelle des pleureuses. C'est-à-dire que des gens dont le travail était de pleurer quand quelqu'un mourait. Il y en avait en Israël. Donc, avant que les pleureuses arrivent quelque part, la première chose, ils s'assurent que le certificat de décès était bien signé par un médecin. Donc, ils s'assuraient que la personne est morte. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas comme si, non, elle dormait seulement et ils ont pensé qu'elle était morte. Non, il y avait une preuve que la personne, que la fille était vraiment morte. C'est pourquoi il y avait des pleurs déjà dans la maison. Alors, Jésus arrive, Jésus rentre et Jésus dit qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle dormait. Souvent, les circonstances qui nous entourent ne semblent pas favorables. Quand on regarde, les circonstances qui entouraient Jaïrus et sa famille ne sont pas favorables. Il y a des moments où nous avons besoin de compter dans ce cas, quand les circonstances ne sont pas favorables, nous avons besoin de compter sur un cercle de personnes rapprochées, des gens en qui nous avons pleinement confiance, des gens qui vont nous pousser à l'audace de la foi, à marcher par la foi et non par la vue. Voyez-vous, Jésus ne prend pas toute la gagne qui est venue avec lui dans la chambre. Jésus prend seulement ses trois plus rapprochés, Pierre, Jean et Jacques. Et il rajoute deux témoins oculaires de ce qui va se passer, le père et la mère de l'enfant. S'il y avait quelqu'un dans la foule qui désirait tant voir l'enfant revenir à la vie, naturellement c'est le père et la mère. Il les prend dans cette chambre où était couché le mort. Et la Bible nous dit, scène 4, 54 à 56. Mais il a saisi par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revient en elle, et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonnant qu'on lui donne à manger. Les parents de la fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Miracle instantané et complet. Jésus ne se contente pas tout simplement de ressusciter cette fille, mais elle fait la, mais il fait la démonstration, comme pour rassurer les parents. Déjà, dans la parole de Dieu, rarement Jésus crie. Est-ce que vous le savez? Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'habitude qui élève la voix. À chaque fois que Jésus élève la voix, ça veut dire quelque chose en particulier. Ici, rarement, presque toutes les guérisons que Jésus a faites, elle l'a faite juste en posant la main sur quelqu'un ou en prononçant une parole. Jamais la Bible ne nous dit que Jésus a élevé la voix. Mais dans cette circonstance particulière, la Bible dit clairement, Jésus prit la main de l'enfant et il éleva et il dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Parce que les parents de l'enfant étaient morts d'inquiétude. Les parents de l'enfant étaient dans le doute. Ils voyaient bien que leur enfant était mort. Alors, cette parole avec foi, avec force de Jésus, était un peu comme pour passer le message encore un peu plus, de façon beaucoup plus pertinente. Rappelez-vous le parallèle avec la résurrection de Lazare. On dit que quand Jésus a demandé quoi, il a crié le nom de Lazare. Lazare, sors de ce tombeau-là. C'est exactement la même scène qu'on vit sous un autre angle ici. La guérison que Jésus-Christ offre est une guérison complète. Voyez-vous, ce qui nous prouve que la guérison que Jésus offre n'est pas une guérison partielle, c'est que Jésus ne se contente pas de guérir l'enfant et de partir, mais il donne une recommandation aux parents, donnez-lui à manger. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a besoin de dire aux parents de donner à manger à leurs enfants? C'est quoi cette recommandation de Jésus? Donnez-lui à manger. Naturellement, si l'enfant a vécu jusqu'à 12 ans, c'est qu'il mangeait, on suppose. Donc, il le ressuscite et la première chose qu'il dit aux parents, c'est donnez-lui à manger. C'est au cas où quelqu'un dans la foule penserait que ce n'était pas le vrai enfant, c'est un esprit, c'est un fantôme. Il ne mange pas, il ne boit pas. Donc, Jésus dit, les amis, c'est votre vrai enfant. C'est l'enfant que vous avez toujours eu. Donnez-lui à manger. En lui donnant à manger, les parents pouvaient le voir et reconnaître en elle, c'est bien notre fille en question. C'est elle, on la reconnaît. Elle sourit de la même manière. Elle fait exactement les choses qu'elle faisait avant. Donc, Jésus était en train de donner une preuve évidente de ce que le miracle qui venait de s'opérer est un miracle concret et complet. Jésus est le maître du temps. Il n'avait pas besoin de se presser. Il est le maître du temps. Il est le temps. Jésus est le temps. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. Mort ou vivant, Jésus est roi. Mort ou vivant, que vous soyez mort ou vivant, Jésus est roi et veut être roi dans votre vie. Bien-aimés, j'aimerais conclure ce matin. Après avoir traversé les quatre actes, d'abord, l'audace de la foi. Cette femme qui a osé braver tout autour d'elle pour pouvoir se frayer un chemin jusqu'à Jésus. Ensuite, l'effroi. L'effroi de voir que finalement, tout ce qu'elle avait dû consentir comme sacrifice peut-être tombait à l'eau parce qu'elle venait d'être découverte en flagrant délit. Mais rassurée par Jésus-Christ, au travers de cette expression, « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». La peur de Jaïrus de voir de ne plus voir du tout sa fille parce qu'elle venait de mourir. Mais cette peur qui vient d'être complètement enlevée parce que Jésus-Christ ramène sa fille de la mort à la vie. Bien-aimés, la question que j'aimerais nous poser ce matin, serions-nous seuls dans notre histoire? Oublions la femme, oublions Jaïrus. C'est votre histoire. Aujourd'hui, je ne sais pas par quelles circonstances vous passez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez en particulier. Mais je sais une chose. Vous avez deux choix. Et il n'y a pas une troisième alternative. Vous avez deux choix. Vous pouvez poursuivre votre histoire sans Jésus. C'est un choix. C'est un choix très raisonnable. Vous pouvez poursuivre votre histoire sans Jésus parce que Dieu vous a donné le libre arbitre. Vous pouvez décider que moi, dans la suite de ma vie à partir de maintenant, je suis assez grand, je fais ce que je veux et je prends mes décisions quand ça me tente. Vous pouvez aussi décider, deuxième choix, que désormais dans votre histoire, dont vous ne connaissez pas la fin, je ne connais pas la fin de mon histoire, Je ne connais pas la fin, je ne sais même pas comment elle va se dérouler. Mais je peux décider de faire une chose, que cette histoire, je ne veux plus la vivre seule. Mon histoire, je ne veux plus la vivre seule. Je veux que Jésus soit au cœur de mon histoire. Je veux compter sur Jésus dans mon histoire. Et c'est ce à quoi je nous invite ce matin. Faire confiance à Christ au milieu de mon histoire, c'est la garantie d'une vie chrétienne authentique. Je vais inviter les musiciens à revenir et nous inviter, nous encourager, bien-aimés, au travers de cette exhortation, en prenant exemple sur cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui a dû braver montagnes et fleuves pour traverser cette foule gigantesque et arriver à trouver en Jésus-Christ la solution de son problème. Mettons-nous dans la peau de Jaïrus, qui, malgré ses hésitations, a pu quand même continuer avec l'énergie du désespoir jusqu'à la chambre de sa fille et voir sa fille être ramenée de la mort à la vie. Nous pouvons, nous aussi, décider de ne pas continuer la marche tout seul. Nous pouvons décider ce matin, comme chrétiens, de poursuivre notre chemin, le chemin de l'histoire de notre vie, de la poursuivre, ce chemin-là, avec Jésus-Christ au centre de notre vie. Et si par hasard nous sommes ce matin ici et que nous n'avons pas encore donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, peut-être c'est la meilleure occasion pour nous de commencer désormais à avoir dans votre histoire Jésus-Christ dans votre barque, Jésus-Christ dans votre histoire. Et apprendre avec le temps, avec les jours, avec les semaines, avec les mois, les années, à lui faire confiance au milieu de votre histoire, parce que lui connaît la fin, et ça sera pour vous, pour nous, la garantie d'une vie chrétienne authentique. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous réjouissons de ce que toutes les occasions de la parole de Dieu sont pour nous des sources inépuisables d'instruction, d'encouragement. Seigneur, au travers du texte de ce matin, nous voulons tout simplement reconnaître notre incapacité de savoir c'est quoi la fin de notre histoire. Et simplement compter sur toi, sachant que si tu es dans notre histoire, nous n'avons pas besoin de connaître vraiment la fin, parce que nous savons que quelle que soit la fin, toi tu es au contrôle de notre histoire. Merci notre Dieu pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde envers nous. Nous qui, Seigneur, pendant longtemps, t'avons rejeté, n'avons pas désiré te voir, t'impliquer dans nos vies, mais que par ta grâce, nous a permis, Seigneur, aujourd'hui, de pouvoir t'appartenir et de te faire confiance dans notre histoire, afin que par toi et pour toi, nous puissions vivre le reste des jours que tu nous donneras sur cette terre. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.